France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de l'imitation cette semaine et ce matin de l'imitation sociale. Est-elle source de paix entre les humains ou bien de rivalité infinie ? Nous y réfléchissons avec les œuvres de Gabriel Tarde et René Girard. Nous imitons tout le temps, dès l'enfance. Et les choses ne s'arrêtent pas à l'âge adulte, elles deviennent juste moins visibles et plus complexes. Et tout cela nous rassemble, crée une société. Voilà un résumé possible, quoique un peu sec, je reconnais, de la réflexion de Gabriel Tarde. Tarde était un penseur du crime, un criminologue à la fin du 19e siècle et un théoricien de la société, donc un sociologue, même si Émile Durkheim, à l'époque, a tout fait pour qu'il ne fût pas reconnu comme tel. Pour Tarde, l'imitation est si puissante qu'on se demande même comment elle peut laisser la place à l'invention, autre concept qui pourtant lui est cher. Nous verrons comment tout cela s'articule. Mais une autre question se pose. Y a-t-il installation de rivalité, y compris violente et délétère, au sein de ce grand processus d'imitation ? Probablement, même si ce n'est pas ce qui saute aux yeux en premier dans l'analyse de Gabriel Tarde. Au contraire, pour René Girard, théoricien littéraire reconnu dès les années 1960, qui ensuite a aspiré à produire une véritable théorie anthropologique, la rivalité et l'agressivité sont au cœur de ce qu'il appelle le désir mimétique. C'est pourquoi nous avons eu l'idée de faire dialoguer ces deux pensées ce matin, celle de Tarde et celle de Girard. Bonjour Anne de Varieux.
Bonjour Géraldine Mann.
Vous êtes maîtresse de conférence en philosophie à l'université de Caen-Normandie. Vous êtes déjà venue dans Avec Philosophie pour nous parler de Maine de Biran, penseur français disparu en 1824. Or, comme Maine de Biran, quelques décennies après sa mort, a beaucoup intéressé Gabriel Tarde, vous êtes aussi devenue une très bonne connaisseuse de la pensée de Tarde. Vous nous aiderez donc à comprendre cette imitation que Tarde tenait pour la clé de la socialisation. Et bonjour Benoît Chantre.
Bonjour Géraldine.
Vous êtes docteur ès-lettres, éditeur, dramaturge et essayiste, et aussi président de l'association Recherche Mimétique, que vous avez fondée en 2005 avec René Girard et plusieurs amis de son œuvre. 2005, c'était 10 ans avant la mort de Girard. Ce matin, vous nous préciserez les enjeux de sa conception du désir mimétique. Commençons par la théorie de Gabriel Tarde, qui n'hésitait pas à dire que l'imitation interindividuelle se déploie souvent de manière inconsciente, tel un état hypnotique. Écoutez ce passage du livre de Tarde de 1890, « Les lois de l'imitation ».
L'état social, comme l'état hypnotique, n'est qu'une forme du rêve, un rêve de commande et un rêve en action. N'avoir que des idées suggérées et les croire spontanées, telle est l'illusion propre au somnambule, et aussi bien à l'homme social. Pour reconnaître l'exactitude de ce point de vue sociologique, il ne faut pas nous considérer nous-mêmes, car admettre cette vérité en ce qui nous concerne, ce serait échapper à l'aveuglement qu'elle affirme et par suite fournir un argument contre elle. Mais il faut songer à quelques peuples anciens d'une civilisation bien étrangère à la nôtre, Égyptiens, Spartiates, Hébreux, est-ce que ces gens-là ne se croyaient pas autonomes, comme nous, tout en étant, sans le savoir, des automates dont leurs ancêtres, leurs chefs politiques, leurs prophètes, pressaient le ressort, quand ils ne se le pressaient pas les uns aux autres ? Ce qui distingue notre société contemporaine et européenne de ces sociétés étrangères et primitives, c'est que la magnétisation y est devenue mutuelle. Et comme nous nous exagérons un peu cette mutualité dans notre orgueil égalitaire, comme en outre nous oublions qu'en se mutualisant, cette magnétisation, source de toute foi et de toute obéissance, s'est généralisée, nous nous flattons à tort d'être moins crédules et moins dociles, moins imitatifs en un mot que nos ancêtres. Le rapport de modèle à copie, de maître à sujet, d'apôtre à néophyte, avant de devenir réciproque ou alternatif, comme nous le voyons d'ordinaire dans notre monde égalisé, a dû nécessairement commencer par être unilatéral et irréversible à l'origine. Même dans les sociétés les plus égalitaires, l'unilatérabilité et l'irréversibilité dont il s'agit subsistent toujours à la base de l'initiation sociale dans la famille. Car le père est et sera toujours le premier maître, le premier prêtre, le premier modèle du Fils. Toute société, même aujourd'hui, commence par là.
Donc, selon Gabriel Tarde, on l'entend dans ce texte, nous avons besoin de modèles que nous imitons. Et tout cela se fait souvent sans conscience. C'est-à-dire, il commence l'extrait que nous avons entendu par l'idée d'un état social qui est comme l'état hypnotique, une forme du rêve, dit-il. Alors ça, c'est quand même le point commun de tous les sociologues. Durkheim, qu'il déteste à l'époque, Anne de Varieux, ils se détestent mutuellement sur le plan scientifique, disent tous les deux que la contrainte sociale pour Durkheim, l'imitation interindividuelle pour Tarde, tout ça, ça se fait sans qu'on en soit conscient.
Bon, alors je vais peut-être partir de effectivement ce duel logique et psychologique entre Tarde et Durkheim. Bon, il est bien connu que Tarde, contrairement à Durkheim, ne considère pas que la société soit une sorte d'entité mythologique qui pèserait sur nous sous la forme de la coercition ou de la contrainte. Donc l'innovation de Tarde, elle consiste à dire que le lien social est un lien d'imitation. Maintenant, reste à comprendre, effectivement, on va parvenir sur la querelle Tarde-Durkheim, et qui a été mise en scène, par exemple, par Bruno Carsanti, Bruno Latour, etc. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'est-ce que c'est que l'imitation. Parce que peut-être c'est un mauvais mot, puisque votre semaine est consacrée à cette notion. On va peut-être commencer par là. Or, l'imitation n'est pas effectivement une singerie, une moutonnerie, une duplication pure et simple. L'imitation désigne une causalité tout à fait particulière que Bergson, grand lecteur de Tarde et grand admirateur de Tarde, va aussi développer. C'est une action à distance, dit Tarde, d'un esprit sur un autre esprit. Oui. Bon, une action à distance qui est, dit-il dans Les lois de l'imitation, qui est son grand livre, qui consiste dans la reproduction, dit-il, quasi photographique d'un cliché cérébral par la plaque sensible d'un autre cerveau. Donc autrui m'impressionne, et quand ce n'est pas autrui qui m'impressionne, c'est moi-même qui m'impressionne. Autrement dit, ce qui est important de comprendre, c'est que ce qu'on appelle l'individualisme de Tarde ne consiste pas du tout à partir d'individualités constituées, c'est ce que le texte en particulier fait ressortir, mais que nous naissons tous, enfants, nourrissons, enfants, adultes, etc. Et nous sommes crédules et nous sommes dociles. Autrement dit, ce qui est imité, ce qui est intéressant, c'est de comprendre ce qui se passe quand un esprit est face à un autre esprit. Or, l'imitation, c'est la transmission de deux quantités sociales, dit Tarde, que sont la croyance et le désir. Voilà. Donc, ce qui est transmis, ce qui est imité par suggestion, par contagion, par vague, on y reviendra, imitative, etc. C'est, au fond, non pas ce que vous sentez, la sensation est un irréductible, je ne sais pas, mais c'est la manière dont vous croyez à ce que vous croyez et dont vous désirez ce que vous désirez. Donc, c'est une interpsychologie, mais dont l'intra-psychologie est en réalité un écho. Autrement dit, être soi, être une personne, parce que la question de l'individualité est fondamentale chez Tarde, c'est d'abord avoir été suggestionné. L'enfant a pour premier maître, premier prêtre, premier modèle le père. Et cette imitation d'abord unilatérale va aller se compliquer, en une imitation mutuelle, réciproque, et qui va jusqu'au, puisque un certain nombre de sociologues aujourd'hui et pas qu'aujourd'hui se sont quand même intéressés à Tarde, bien qu'il soit en définitive trop peu lu, ça aboutit par exemple aux réflexions que vous connaissez bien, Géraldine, sur l'opinion, le public, la conversation, etc. Bon, alors moi, ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est évidemment, enfin ce qui est important d'abord de noter, c'est que partout donc où il y a un lien social, il y a imitation, et c'est encore une fois une causalité tout à fait particulière, dont au fond nous ne comprenons pas grand-chose, dit Tarde. Très. Mais ce qui se transmet, ce sont des quantités mesurables. Quand vous êtes un consommateur de lessive, vous croyez en l'utilité de cette lessive, vous la désirez, etc. Donc désir et croyance, c'est la logique et la téléologie dans les termes tardiens. Voilà ce qui se transmet. Donc que vous parliez, que vous écoutiez, que vous commandiez, etc. Vous transmettez une force. une énergie qui est une énergie de croyance, une énergie de désir. Alors, si je puis ajouter une deuxième chose, hein, puisque je suis là pour parler de Tarde et j'en suis ravie, ce qui importe ici, c'est évidemment qu'il considère cet état de social comme un état hypnotique. Alors là, il doit beaucoup évidemment aux travaux de son époque. Hein, c'était un ami, il a écrit dans la revue philosophique de Ribot, etc. Et ça, c'est des psychologues comme Richer, Binet, Bonis, oui. Bernheim, Delboeuf, etc. qui tous suggèrent qu'au fond, il y a dans le magnétisme, dans l'état hypnotique, alors il faut, le magnétisme somnambulique, hein, oui. Au fond, nous sommes en société des somnambules. Alors, je suis biranienne, vous l'avez rappelé, et je crois que...
C'est-à-dire que vous êtes une spécialiste de
Biran. Oui, une grande obsessionnelle. Bon, et le somnambulisme, à mon avis, s'est beaucoup inspiré de Biran là-dessus. Biran qui dit « Je suis comme un somnambule en société ». Or, c'est quoi le somnambulisme ? Qu'on le considère comme un somnambulisme magnétique qui suppose donc un magnétiseur et un magnétisé ou un somnambulisme naturel, mais ici, il s'agit bien du somnambulisme magnétique. Hein. Il s'agit de l'emprise, il s'agit de la suggestion qu'un individu exerce sur un autre, d'accord ? Le père, l'enfant, le prêtre, le fidèle, etc. etc. Le somnambulisme se caractérise magnétique par une absence momentanée de résistance, une focalisation, d'accord, sur le désir que le magnétiseur vous inspire ou sur la croyance qu'il veut vous transmettre. Donc, c'est le sens de l'analogie. Hein. Nous sommes en société, encore une fois, la société est un rêve, nous sommes des somnambules et mieux que ça, nous sommes des somnambules guidés par des fous.
Alors, donc, je me tourne vers vous, Benoît Chante, vous êtes spécialiste de René Girard. Je précise qu'on traitera du désir mimétique et nous n'aurons pas le temps d'évoquer toute la suite de l'œuvre de Girard, la question du sacré, notamment dans son itinéraire. On parlera vraiment du texte de 1961, Mensonge romantique et vérité romanesque, où dans la littérature, il analyse le désir mimétique, qui est d'abord et avant tout pensé comme des rivalités, mais vous nous expliquerez cela après, on va pas mélanger tout de suite. Mais simplement, je me suis intéressée au fait que Anne de Varieux évoquait le désir. La question, chez Tarde, de l'imitation engage le désir. Un point d'ailleurs qui n'est pas très clair pour moi, c'est de savoir si c'est un désir un petit peu insufflé par les autres que nous imitons, ou s'il y a un désir qui est là et simplement les autres nous aident à l'orienter. En tout cas, vous qui êtes spécialiste de Girard, cet aspect de Tarde vous intéresse-t-il ?
Bien sûr, c'est tout à fait fascinant et magnifique de lire Tarde avec une arrière-pensée girardienne aussi, puisque finalement, Tarde, dans ce grand poème symphonique qu'est sa pensée de l'évolution qui mène à l'humanité, part de monades, d'éléments infinitésimaux, que ce soit les atomes, les cellules, les cerveaux qui finissent par faire société. Ce sont des atomes, des monades désirantes, qui désirent, qui sont irrésistiblement attirées les unes par les autres. Ce mouvement-là, évidemment, Girard en a fait tout l'objet de sa recherche, cette attraction mutuelle que nous exerçons les uns sur les autres. Et quand Tarde, très naturellement, parle du passage d'une imitation unilatérale à une imitation réciproque, de celle que le fils a pour le père ou le disciple pour le prêtre, là il y a une aura sacrée du modèle qui passe après en imitation réciproque, dit Gabriel Tarde, c'est-à-dire nous passons du modèle du père au modèle du frère. Girard a évidemment saisi cette intuition pour penser le passage de ce qu'il appelle médiation externe à la médiation
chose
interne,
c'est-à-dire que nous définirons tout à l'heure.
C'est-à-dire que les modèles extérieurs, les modèles sacrés, ont une tendance irréversible à devenir des modèles internes. Il y a un mouvement pendulaire, si vous voulez, de passage régulier d'une médiation à l'autre. Et c'est ce phénomène pendulaire qui, pour Girard, fut constitutif des sociétés humaines.
Alors, juste pour que les choses soient très claires dans le rapport de Tarde à Durkheim, pour préciser cela à nos auditeurs, puisque nous supposons acquis, j'aime pas ça dans les émissions qu'on suppose trop acquis et connu de tout le monde, le fait qu'il se déteste sur le plan scientifique, Durkheim pense, Anne de Varieux, que la société agit sur nous comme un tout, et c'est pas par des imitations interindividuelles. Exemple typique, le suicide, on ne se suicide pas, s'il y a un élément social dans le suicide, et Durkheim le pensait, on ne se suicide pas, ou on n'est pas, disons, incité à passer à l'acte par le fait que d'autres sont passés à l'acte. Ça, ce serait de la contagion, de l'imitation. On l'est parfois parce qu'il y a des structures sociales, un état du tout social autour de nous, dans lequel nous avons une position fragilisée, qui peut favoriser le passage à l'acte, même si tout n'est pas social dans le suicide. Donc, ils ont quand même un débat très important, et l'imitation, à cause de Durkheim, l'imitation tardienne, Anne de Varieux, a été un peu sous-estimée en France, comme mode, manière de faire de la sociologie.
Oui, j'avais eu l'occasion de rencontrer la petite fille de Gabrielle Tarde, parce que Gabrielle Tarde a aussi écrit des notes psychologiques, un journal qui est au centre d'archives de Sciences Po. Et elle m'avait dit à quel point, effectivement, Durkheim avait éclipsé Tarde, etc. Mais bon, oui, il s'agit de refuser la société comme une sorte de puissance coercitive qui viendrait d'on ne sait où. En réalité, tout lien social est d'abord un lien intermental. Hein. Alors, comme l'a dit Benoît Chantre, et c'est ça qui est très important, c'est que l'intrapsychologie, vous avez, Benoît Chantre, évoqué la monadologie de Leibniz. Bon, il y a toute une métaphysique chez Tarde. C'est ça qui est extraordinaire. C'est non seulement un extrêmement grand, à mon avis, écrivain, il a un style absolument extraordinaire, mais en même temps, c'est un métaphysicien, c'est le plus métaphysicien des sociologues. Et donc, il a toute une théorie, si vous voulez, alors qu'on pourrait d'ailleurs... c'est Taine, hein, c'est Hippolyte Taine, le grand inspirateur. C'est-à-dire que la relation à l'intérieur du cerveau, intracérébral, de cellule à cellule, est déjà une relation d'imitation, d'opposition, de soif de domination. Et en réalité, vous passez votre vie dans ces duels logiques qui ont un aboutissement plus ou moins heureux, d'accord ? Mais au fond, il n'y a pas d'un côté la société et de l'autre vous qui seriez constitué, je pense qu'on a compris, hein, mais c'est précisément ces croyances et ces désirs qui... Et c'est cela, l'intérêt du lien social, produisent des similitudes, d'accord, produisent une harmonie. Alors ça, j'aimerais bien y venir peut-être à propos de
Girard. Oui, de rivalité.
Voilà, on va parce qu'en réalité, le grand inspirateur, si on parle de la notion d'imitation, Tarde dit souvent, oui, ben, on peut me reprocher la grande extension que je donne à ce terme. Hein, on imagine qu'on imite et on le fait volontairement. Mais cette distinction volontaire-involontaire, elle n'a finalement aucun sens.
Oui. Alors d'ailleurs, si vous me permettez,
oui, je vous
parce
en
que souvent... C'est vrai qu'il y a de l'imitation, même sur le plan nerveux. Enfin, je ne sais pas comment le dire.
Donc, c'est une l'habitude, que la mémoire, souvent, c'est une imitation de soi.
Que je fais souvent, j'ai fait souvent dans ma vie en cours. Je vais la faire pour la première fois à la radio. Si je dis que j'ai envie de bâiller, si je bâille a fortiori, le fait de penser au bâillement, ça vous donne envie de bâiller, Anne de Varieux. D'ailleurs, c'est peut-être fait. Moi-même, j'ai envie de bâiller, rien que d'en parler. Et vous aussi, Benoît Chantre. Et peut-être, ça c'est un fantasme que j'ai, peut-être que les auditeurs, en pensant à la possibilité que nous nous mettions tous à bâiller, auront envie de bâiller.
Donc... Vu qu'ils ne bâillent pas.
Quoi ?
Vu qu'ils ne bâillent pas en ce moment, ça serait mauvais signe.
C'est intéressant. Il existe de facto des phénomènes où c'est clair. Il y a de l'imitation. Notre cerveau ne peut pas ne pas imiter ou donner envie d'imiter quelqu'un qui, par exemple, est en train de bâiller.
Oui, c'est une logique d'appropriation. Hein. Tarde insiste beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, ce qui est important, c'est pas tellement je suis, mais j'ai, c'est le mien. Hein, le mien. C'est-à-dire une logique d'appropriation et qui est encore une fois qui se constitue par cette magnétisation pardon, réciproque, hein, et dans tous les domaines. C'est-à-dire, ce qui est extraordinaire chez Tarde, c'est que il a écrit une psychologie économique, il a écrit les transformations du droit, il a écrit, je le disais tout à l'heure, des fictions aussi qui sont des dystopies tout à fait intéressantes, et peut-être qu'on pourra, hein, les géants chauves ou fragments d'histoire future, on pourra peut-être les comparer, je ne sais pas, à Girard. Mais ce que je voulais dire, c'est que sur la question de l'imitation, vous voyez, il y a une inspiration qui est à la fois aristotélicienne, mais qui est surtout qui vient directement de Smith. Hein, c'est l'idée qu'au fond, la société est une mise en spectacle. Hein, quand vous êtes avec... en présence d'autres hommes, vous n'êtes pas de la même façon que quand vous êtes en présence d'une rivière, d'une montagne ou de je ne sais quoi. Vous êtes susceptible d'être regardé, vous êtes susceptible d'être entendu, vous exprimez un certain nombre de gestes, vous prenez la parole, etc. Bien, et tout cela provoque une causalité hein, qui est tout à fait sui generis, qui est celle de l'action d'un esprit sur un autre esprit.
Alors, en même temps, Tarde dit volontiers, en particulier dans L'Opinion et la Foule, son recueil de textes de 1901, que l'imitation a toujours fondé la société, mais de manière plus ou moins grossière. Il y a un évolutionnisme chez Tarde, Anne de Varieux, par exemple des groupes sociaux comme la Meute ou la Horde, puis plus tard la Foule, sont des groupes assez sommaires où, oui, on s'imite. Et d'ailleurs, si on ne le fait pas, celui qui ne le fait pas est assez vite éjecté du groupe. En revanche, l'imitation dans un développement humain, puisqu'il est, comme plein de gens au 19e, évolutionniste, le développement fait que, grâce notamment au développement de la conversation, nous mettons en œuvre des modes d'imitation toujours là, mais bien plus subtils, qui tolèrent quoi? Davantage de différences individuelles et de différenceuses individuelles?
Oui, alors c'est une des questions, hein, c'est savoir la finalité au fond de cette imitation mutuelle, de ce cauchemar collectif ou de ce rêve collectif. On y reviendra peut-être à propos de René Girard. Quelle était votre question, pardonnez-moi?
Ma question était de savoir ce qui se passe quand l'imitation est plus développée. Voilà, alors, après la Révolution française, avec la naissance des publics, de livres déjà mis en place, puis de publics de journaux, les salons du 18e. Tarde s'intéresse beaucoup à ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Que l'imitation existe toujours, mais sur un mode subtil. Dans la conversation, nous cherchons, pour ne pas nous fâcher, les choses qui nous sont communes. Mais de temps en temps, on peut se distinguer de l'autre. Et puis, on revient vers du même. Et du coup, la conversation se prolonge. Donc, c'est un mode d'imitation bien plus subtil que la Meute, la Horde, la Foule.
Absolument, absolument. Hein, c'est-à-dire, alors là, il faut lire les lois de l'imitation. C'est-à-dire, on n'a plus affaire au chef, au prestige, à la magnétisation d'un prophète, ou etc. Non, mais on a une imitation mutuelle qui est en quelque sorte développée, qui est réciproque et qui est surtout étendue. Hein. Alors c'est pourquoi Tarde a pu inspirer tous ceux qui réfléchissent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, hein, et qui définit effectivement le public. Hein. Vous aviez invité, je crois, Elena Beauvau sur la question des foules. Oui. Bon, et donc il y a une rationalisation croissante, mais ce qui n'empêche pas que nous sommes magnétisés de toute façon. C'est-à-dire que l'erreur, elle consistera à croire que, voilà, nous sommes adultes maintenant et que nous pouvons nous passer de ces magnétisations mutuelles. Non, en réalité, nous sommes en permanence, d'accord, sous l'emprise de nos propres croyances, de nos propres désirs et tels qu'ils sont véhiculés, effectivement, hein, par ces actions à distance. Alors qu'aujourd'hui, on voit, je crois que Bruno Latour avait été particulièrement intéressé de ce point de vue-là par les analyses de Tarde, hein, qu'on voit démultiplier et qui influence, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, il y a des lois, hein, de l'imitation, parce que l'imitation suppose aussi la contre-imitation, la non-imitation, oui, qui sont aussi, c'est subtil, des manières d'imiter, hein, et l'invention, qui est le croisement heureux, puisque vous avez suggéré...
Je pense qu'il faut juste un petit peu avancer, pardonnez-moi.
Je vous en prie.
Anne de Varieux, et d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est vrai qu'aujourd'hui on se demande si ça ressemble à des publics avec des vraies conversations, des différenciations individuelles tout en ayant des choses en commun, ou si on a affaire à une foule qui hypnotiquement fait que tout le monde se ressemble et dans la même opinion par petites bulles. C'est une des raisons pour lesquelles Tarde aujourd'hui est sollicité. Je vous propose de passer au problème du conflit, de la rivalité dans l'imitation. Peut-être que d'ailleurs on retrouvera le problème de l'invention. Voici une archive de René Girard qui, lui, a mis la rivalité au cœur du désir mimétique, comme il parle. Il s'agit d'une archive de À Voix Nue sur France Culture, le 30 août 2004.
L'imitation engendre le conflit. La plupart des conflits sont des conflits de rivalité. Alors les gens, les marxistes ou les autres sociologues, vous disent que ce conflit de rivalité, c'est avant tout le besoin. Mais il y a trop de rivalité chez les hommes pour que ce soit toujours le besoin. Alors, les appétits et les besoins peuvent se mimétiser. Par exemple, le désir sexuel. Shakespeare est plus qu'un illustrateur du désir mimétique. C'est un théoricien du désir mimétique. Il en parle, il le nomme, il le discute. Les premières œuvres de Shakespeare, c'est toujours deux jeunes gens, ou quatre, des hommes ou des femmes. Ils ont été élevés ensemble, ils ont tout en commun. Et ils s'aiment et leur amour, leur amitié, ils en ont tout à fait conscience, c'est l'imitation. Si tu n'aimes pas le livre que j'aime, tu n'es plus mon ami. Si tu n'aimes pas tel vin plutôt que tel autre, nous ne sommes plus amis. L'amitié, donc, ses limitations, ils en ont conscience, ils le disent. Et Shakespeare le dit de la première à la dernière pièce. Si vous prenez la dernière tragédie, Antoine et Cléopâtre, vous voyez qu'il est dit d'Antoine et d'Octave, ce qui est l'objet de leur amitié va devenir l'objet du conflit le plus terrible.
Benoît Chantre, nous venions de dire qu'avec Tarde, la conversation moderne, par exemple sur des livres ou sur des articles de journaux que deux amis ont lus, tolère des différences d'appréciation et des différends, mais que voilà, la conversation, il y a du même et il y a du différent. L'impression que l'on a tout de suite en écoutant René Girard, c'est que tout de suite, le désir mimétique impose du même. Et sinon, il y aura de la rivalité, donc il y a quelque chose qui est pensé autrement. Est-ce que vous pouvez nous préciser la manière de réfléchir de Girard ?
Oui, vous allez droit au cœur de la différence entre Girard et Tarde, à mon avis. Tarde, part de différence et arrive à des identités, puis revient à des différences, puis etc. C'est le passage d'un flux physique à un flux biologique, d'un flux biologique à un flux conscientiel ou sociologique. Girard, lui, c'est l'inverse. Il ne part pas de la différence pour aller vers l'identité, il part de l'identité pour aller vers la différence. Il est sartrien au début de son parcours. La différence est un excès d'identité. La différence est une illusion et très vite on retombe dans l'identité. Et il faut constamment se battre pour imposer sa propre différence.
Je suis pas sûre de bien comprendre en réalité. Par exemple, l'exemple du livre qu'il donne dans cette archive. Si nous avons lu le même livre et nous n'avons pas le même goût pour ce livre, nous avons des différences d'appréciation, ça va gêner notre amitié, beaucoup plus gravement que pour Tarde, où on peut discuter, etc. Pourquoi ? Est-ce que ça veut dire que nous ne sommes bien qu'avec des gens qui pensent comme nous? Et en même temps, c'est très troublant, puisque Girard dit, si j'ai bien compris, que quand on est dans le même, dans le mimétique, en fait, il y a de la rivalité quand même. Donc, je suis pas sûre de bien comprendre.
Oui, non, mais il faut, effectivement, la chose a été dite par Anne de Varieux à l'instant, nous sommes pétris d'altérité. Nous ne désirons, nous ne percevons que par le biais d'un tiers, ou nos désirs sont empruntés. Bon, nous avons deux solutions, ou accepter ce phénomène, en comprendre la logique, assumer le fait que nous nous imitons les uns les autres, et là, nous nous donnons des chances d'innover, d'inventer, de voir jaillir une idée au sein d'une conversation, où les points de vue peuvent s'opposer, ou alors nous refusons ce phénomène, nous le dénions, et nous entrons dans ce que Durkheim appelait la crise de l'individualisme, qui est fondée sur une dénégation de l'imitation.
Donc l'imitation girardienne, ça signifie que ou nous nous mettons dans un vrai même, dans du similaire, ou ça casse, et ce sera la rivalité. Donc l'imitation est toujours fragile, parce qu'il y a le risque que ça casse
comme... nous ne nous mettons pas dans le même, nous finissons par retomber toujours dans ce fond de mêmeté ou ce fond d'identité qui est ce qui rend l'imitation dangereuse. Donc lorsque nous discutons entre nous, nous sommes sur fond de différence, vous êtes différente de moi, je suis différent de vous, nous commençons à adopter la même langue, nous nous imitons réciproquement l'un l'autre, et
ça,
dans une conversation où nous avons accepté chacun, vous et moi, de nous mettre dans la dépendance de celui qui vous parle ou de celui qui nous écoute, nous voyons apparaître, jaillir de manière surprenante, pour vous comme pour moi, une différence, une invention, quelque chose de nouveau, de surprenant. Nous avons assumé le fait de la conversation, nous avons assumé le fait qu'elle est une imitation réciproque, et brusquement nous voyons surgir une différence, une nouveauté. Et cette nouveauté est surprenante pour vous comme elle l'est pour moi.
Elle est dangereuse, elle risque de créer du conflit entre nous.
La nouveauté est toujours une chance, au contraire, de sortir de la rivalité. La rivalité oppose des mêmes, oppose des gens qui, finalement, imitent en l'autre son refus d'imiter. Ce sont deux dénégations de l'imitation qui s'opposent l'une l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc elle est stérile. Elle ne peut que mener vers ce que Girard appelle une indifférenciation. S'accrochant à de prétendues différences, voulant absolument imposer nos différences à autrui, nous finissons par devenir les mêmes.
Alors nous sommes les mêmes, mais il me semble qu'on comprend mieux ce que veut dire Girard dès qu'on introduit la question de la médiation ou du médiateur que vous avez commencé à évoquer au début de l'émission. Est-ce que c'est parce qu'il y a toujours un tiers entre deux personnes qui s'imitent que même dans l'imitation la plus fidèle, il y a une rivalité possible ? Qu'est-ce que c'est le médiateur ?
Le médiateur, c'est celui qui nous indique ce que nous devons désirer. C'est le père qui indique à l'enfant ce qu'il peut désirer, ce qu'il ne peut pas désirer. Le modèle est freudien, en fait, chez Girard. C'est une reprise du...
Je vous remercie de le dire, parce que vu le traitement que Girard réserve à Freud plus tard dans sa vie, c'était... Merci de
Comment
dire
Comment pouvez-vous dire une chose pareille?
J'ai lu, hein. Girard est extrêmement violent avec Freud.
Au contraire, oui. Girard a pris très au sérieux ce que les psychanalystes ne prenaient pas au sérieux chez Freud, c'est-à-dire ce qu'on appelle ses romans sociologiques. Girard a pris extrêmement au sérieux... cette affaire du père de la horde primitive, Totem et Tabou, par exemple. Girard a pris très au sérieux cette affaire du complexe oedipien et la lecture freudienne de l'Oedipe. Mais il propose un autre Oedipe, c'est-à-dire que pour lui, il n'y a pas de vrai père. Il n'y a pas de problème avec le père. Le vrai problème, c'est avec le frère. Le vrai problème de la rivalité, c'est qu'elle oppose des frères.
Et alors justement, ça permet bien de comprendre le point sur lequel je vous interrogeais. C'est parce qu'il y a le père comme modèle médiateur externe et interne, parce qu'on a aussi un père intérieur, que deux frères, pour prendre des exemples masculins, mais ça marcherait aussi avec des femmes, deux frères, essayant d'imiter ensemble le modèle paternel, sont en rivalité au sein même de l'imitation. C'est à cause du médiateur, du tiers, du père. C'est lui qui est l'enjeu, et donc au sein de l'imitation que tout le monde accomplit, les deux frères, il y a de la rivalité.
Les frères entrent en rivalité, ou plutôt tout individu, tout être humain voit apparaître un frère dans son horizon quand le modèle se rapproche et quand celui par lequel, par le biais, la médiation duquel il désire tel ou tel objet, finit par lui faire obstacle.
Donc un frère qui imiterait mieux que l'autre frère inquiéterait l'autre frère. Ah, s'il imite mieux, il est plus proche du père que moi, c'est ça le
On parlait tout à l'heure de la logique d'appropriation que Tarde a parfaitement comprise à l'origine du phénomène de l'imitation. Les monades, en fait, s'approprient l'être de l'autre monade. Le phénomène, Girard l'a bien mis au jour en insistant sur l'idée d'appropriation. Il s'agit au départ de s'approprier un objet qui devient désirable parce qu'un autre le désire ou pourrait le désirer à nos côtés. Voyant que je le désire, cet autre qui ne désirait pas ou qui a désirait déjà cet objet va le désirer davantage. Et donc, l'objet va finir par disparaître et les deux adversaires, les deux frères, devenus frères ennemis, vont finir par préférer la dispute à l'objet de la dispute.
Ah.
Et qu'est-ce qui se passe alors? L'objet n'a pas disparu, contrairement à ce que disent certains commentateurs de Girard.
Le modèle paternel, en l'occurrence, n'a pas disparu.
Est-ce le modèle paternel? Vous avez raison de parler effectivement.
C'est vous qui l'avez
introduit. Je ne sais pas si c'est le modèle paternel, mais en tout cas, l'objet n'a pas disparu. Les deux adversaires finissent par préférer la dispute à l'objet de leur dispute. Ils s'accrochent à des différences prétendues. Mais l'objet n'a pas disparu. Il revient en réifiant l'être du modèle. Ce que veut finalement celui qui est hanté par son modèle qui lui fait obstacle, c'est saisir, s'approprier l'être de son modèle, devenir son modèle. Nous avons là la pathologie qui est interne à l'imitation, la plus grave, et que des grands romanciers comme Proust, comme Dostoïevski ont admirablement mis au jour, c'est-à-dire l'agenouillement du sujet au pied de son médiateur. Il y a dans la rivalité fratricide toujours, à un moment donné, l'un des deux pôles qui va devenir dominant et qui va littéralement écraser l'autre.
Vous pourriez donner des exemples littéraires, là? Je ne sais pas, vous parliez de Proust. Je sais que vous aviez suggéré avant l'émission de parler peut-être du moment où Julien Sorel, dans Le Rouge et le Noir, évidemment veut imiter Napoléon, mais c'est un médiateur inoffensif, puisqu'il n'existe plus, Napoléon, donc il ne peut pas venir dire quoi que ce soit, non, tu n'es pas moi, etc. Et Mathilde, par exemple, voit beaucoup de gens que Julien Sorel imite, et fantasmatiquement, ça nourrit son désir. Mais à un moment donné, Julien semble courtiser Madame de Fervaques. Et là, ça pose un problème. Quel est le problème d'après
Le problème, je dirais, est à la fois simple et complexe. Julien Sorel est amoureux de Mathilde de la Mole, ou du moins s'intéresse à elle, et il la sent indifférente. Nous avons le phénomène que Girard a très bien analysé, celui de la coquette. La coquette qui apparemment se suffit à elle-même.
C'est
la bonne interprétation.
Je suis pas sûr du tout, mais
Suffit à elle-même, elle est indifférente. Et donc, pour la faire sortir de cette indifférence, c'est-à-dire pour la faire sortir de l'amour qu'elle se porte, Julien Sorel va susciter un autre désir. Il va donc, dans un jeu purement politique, machiavélique, susciter le désir de Madame de Fervaques. Elle va tomber...
Pour exciter Mathilde, c'est ce
pour
que vous dites.
Pour que Mathilde soit médiée par le désir de Madame de Fervaques et s'intéresse à Julien, qui ne l'intéressait pas auparavant. Et donc, il suscite, il manipule le désir d'autrui. Il y a quelque chose de très dangereux dans la compréhension des lois du désir, c'est qu'elles peuvent devenir, elles peuvent être instrumentalisées de manière très machiavélique. En l'occurrence, c'est ce qu'il fait. Il joue avec le désir d'autrui.
Donc la jalousie est le vrai moteur du désir.
Si vous voulez, la jalousie absolument surgit irrémédiablement lorsque deux individus se font face et désirent les mêmes objets ou prétendent qu'ils ne les désirent pas, se comparent mutuellement l'un l'autre, elle jaillit du sein même de leur relation avec la force irréversible d'un mécanisme. C'est ça la trouvaille de Girard. C'est ce qu'il appelle l'unité ou la structure du désir triangulaire. Dès que le conflit entre, dès que l'imitation devient rivalitaire, à ce moment-là, il y a un mécanisme irréversible qui surgit. Et il est implacable. C'est la loi du désir mimétique. C'est-à-dire...
Et chez Dostoïevski, par exemple, dans L'Éternel mari, c'est vraiment le problème. C'est-à-dire qu'à un moment, Veltchaninov comprend que si Troussotsky rentre dans sa vie, c'est parce qu'il est le mari d'une femme avec laquelle a été Veltchaninov, une femme avec laquelle Veltchaninov a eu une aventure. Au fond, la rivalité est plus importante que l'objet commun.
Ce qui est génial, là, dans cette nouvelle de l'Éternel mari, montre très très bien Girard, c'est que Dostoïevski met au premier plan non pas le mari, mais l'amant, le médiateur, qui est le personnage principal. Et c'est lui, et c'est autour de ce personnage principal qu'on va voir s'agiter misérablement l'éternel mari, qui a absolument besoin de son médiateur pour désirer une nouvelle femme après le décès de la première, qui fut l'amante de Veltchaninov. Il a besoin de faire revenir ce médiateur pour désirer la nouvelle femme qu'il se destine. Le médiateur est tout puissant. Et là, c'est vraiment une intuition très profonde fonde de ce que Girard appelle la médiation interne. Mais ce phénomène-là, de la puissance du médiateur qui règle le jeu, Don Quichotte, Cervantes l'avait déjà parfaitement repéré, puisqu'il insère dans son Quichotte une petite nouvelle qui s'appelle « Le curieux impertinent », où on n'a plus du tout l'imitation de Don Quichotte vénérant Amadis de Gaulle comme un modèle externe, lointain, qui ne peut pas entrer en rivalité avec lui et qui oriente son désir. On a exactement le même schème de deux amis dont l'un ne désire plus son aimé et pour la désirer suscite un rival. Car il faut qu'il y ait un rival pour que brusquement le désir s'enclenche de nouveau. Il y a un mécanisme du désir qui n'a pas forcément grand-chose à voir avec l'amour.
Quelle est la différence entre une médiation externe et une médiation interne?
La médiation externe suppose que le modèle soit assez loin du sujet pour ne pas entrer en rivalité avec lui. Il se confond à la limite
donc
avec
Napoléon
la culture.
Napoléon pour Julien Sorel. Ou les héroïnes romantiques des lectures de Madame Bovary. Pour Madame Bovary.
Absolument.
Donc là, il n'y a pas de problème. C'est un idéal du moi, dirait Freud.
Oui, le modèle, il est là, il se confond à la limite avec la culture et il oriente le désir naturellement.
Donc le problème, c'est quand on a une Madame de Fervaques,
le problème, c'est quand ce modèle se rapproche d'un couple. Le problème, c'est quand ce modèle non plus transcendant et extérieur se rapproche du sujet et entre en rivalité avec le sujet. Et là, c'est le passage qui est très clair chez Girard, qui est quand même un chartiste au départ. Donc ça commence avec le serment de Strasbourg, l'histoire de France, ça se termine avec la Révolution française. Quand Girard quitte la France pour les États-Unis et découvre Tocqueville, il pense ce phénomène très fondamental pour Tocqueville qui est la société démocratique, la société égalitaire. Et la société égalitaire est une société où les modèles pullulent autour de nous.
Oui,
pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur parce qu'ils sont d'autant plus stimulants qu'ils pullulent, pour le pire parce qu'il devient de plus en plus complexe de discerner les bons des mauvais. Au moins, la culture avec ses modèles transcendants et leur aura sacrée fut-elle une illusion, au moins les sociétés de caste avaient des modèles qui permettaient de contenir ce phénomène. Une fois effondrées les sociétés hiérarchiques, l'imitation est là comme un fait sur lequel on ne peut plus revenir. Il faut « deal with », comme disent les Américains. Il faut agir avec. Il faut être capable de la comprendre, d'en comprendre les lois, pour comprendre que c'est en l'assumant, en se mettant sous la dépendance d'autrui, temporairement, que nous aurons des chances d'innover et de trouver des nouvelles formes, de trouver de nouvelles idées, de trouver de nouvelles lois.
Alors là, nous allons revenir à Tarde, car il semble y avoir un point commun entre Girard et Tarde, à propos du fait qu'à l'époque moderne, l'époque de l'égalitarisation de nos conditions d'individus, il faut canaliser la rivalité, il faut aussi canaliser les envies de s'imiter, et les objets matériels sont une très bonne occasion. Nous désirons les mêmes choses, à la fois nous sommes un peu rivaux, mais quand même le même l'emporte. La matérialité des choses, l'économie de marché, aurait permis au désir mimétique, qu'il soit tardien ou girardien, de se réaliser plus harmonieusement. Écoutez une archive sur ce point de René Girard, toujours dans À voix nue sur France Culture du 30 août 2004, et puis nous vous donnerons ensuite un exemple.
L'admirable de la société moderne, c'est qu'elle dit « Vous voulez tous la même chose ? Eh bien, nous allons vous le donner. Vous voulez tous les mêmes machines à laver, les mêmes, etc. » Pendant 40 ans, ça a marché. On a donné aux gens des machines à laver, etc. Ils ont été heureux pendant longtemps. C'est vraiment... Mais le désir ne se satisfait pas de ça. Parce que le désir humain, fondamentalement, finalement, il veut être premier. Il veut battre tout le monde à leur propre jeu. N'est-ce pas ? Notre société est sans doute celle qui a réussi le plus à domestiquer la rivalité mimétique, c'est-à-dire à la rendre constructive. Parce que le businessman, le type qui veut gagner de l'argent, qu'est-ce que c'est ? Il veut battre les autres dans le domaine de l'avoir, d'avoir plus d'objets que tout le monde. Et notre société a réussi à rendre ça constructif, à faire de la production industrielle avec. Je pense que les sociétés archaïques, ce qui les caractérise, c'est que toute concurrence risque de déboucher sur le combat, n'est-ce pas ? Mais il n'y a pas ce domaine intermédiaire que nous avons créé, qui est celui de la production industrielle, du commerce, de l'industrie, etc.
Bonjour mes gourmandises, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super méga giga bien, je suis au taquet. On va tester ensemble un objet du quotidien, on peut l'appeler comme ça, que je vois tourner littéralement partout sur les réseaux sociaux. Mais quand je vous dis de partout, c'est-à-dire que j'ouvre mon TikTok, j'ouvre mon Instagram, j'ouvre mon Snapchat, je vois que du air fryer. Et abonnez-vous tout de suite si ce n'est toujours pas déjà fait. Je vous laisse 5 petites secondes et après on reprend.
L'air fryer est devenu l'ustensile à la mode ces derniers temps, on le voit partout. Il est évidemment sur les réseaux sociaux, dans des recettes impressionnantes.
C'est bon ? T'es abonné ? Allez, je vous laisse bien sûr le lien du produit en description.
Utilises-tu ta friteuse à air à son plein potentiel ? Tout ce que tu vois présentement est fait au air fryer.
Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec la magnifique et incroyable air fryer Ninja Double Stack. Et si vous voulez vous la procurer, dépêchez-vous, faites vite, ne réfléchissez pas trop.
Abonne-toi pour plus de recettes et tu vas devenir toi aussi le pro du air fryer.
Et c'est Nicolas Berger, notre réalisateur, qui a monté ces petits extraits sonores à propos de l'air fryer, friteuse à air chaud, qu'apparemment tout le monde s'arrache, nous nous imitons. C'est-à-dire que la société marchande nous permet de nous retrouver dans le choix de nos achats. Ma question est la suivante, pour la spécialiste de Tarde et pour le spécialiste de Girard, cette imitation dans nos choix d'objets matériels grâce à la société marchande capitaliste, tout cela sert-il la paix sociale ou sert-il l'exacerbation des rivalités ? Anne de Varieux.
Oui, je voudrais juste préciser quelque chose, c'est que quand Tard dit que ce qui est transmis, ce sont des flux en réalité de croyances et de désirs. Ce qu'il veut dire, c'est que toute consommation, puisqu'on parle de cela ici, n'est pas seulement un besoin, mais elle est un jugement. Autrement dit, on ne consomme jamais aucun produit, aucun service, sans porter une appréciation explicite ou implicite sur ce qui est plus ou moins utile. Donc il y a une éthique, il y a une esthétique, dit Tard, au fond de tout budget, qu'il s'agisse du budget de la famille, qu'il s'agisse du budget d'un État. Alors, par rapport à Girard, ce qui me paraît remarquable, si vous voulez, c'est pourquoi j'insistais sur la filiation smithienne, il y a un instinct de sympathie. Et cet instinct de sympathie, il n'est pas, on ne peut pas l'assimiler évidemment à une agressivité qui serait naturelle. Il y a une économie chez Tard des biens qu'il appelle des biens non rivaux. Hein, autrement dit, tout échange ne signifie pas un sacrifice. Hein, il signifie un mutuel rayonnement, une réciprocité. Et de ce point de vue-là, il y a une manière de donner qui consiste à transmettre, qui ne consiste pas dans une déperdition. de ce que je donne. Hein, tous les biens spirituels en particulier ne consistent jamais, quand ils sont transmis, à se dépouiller soi-même de ce qu'on posséderait. Au contraire, plus vous divulguez, plus vous inventez, plus vous découvrez et plus vous possédez ce que vous avez propagé. Alors ça me semble, parce que l'idée que tout désir est magnétisé, n'est l'idée qu'aucun désir n'est spontané, qu'au fond tout désir est suggéré, etc. Ça me paraît d'une grande banalité. En tant que telle. Ce qui importe, alors vous m'interrogez sur la finalité.
Tard, je vous interroge sur les objets matériels. Je voudrais savoir si de désirer les mêmes choses grâce à un grand marché, ça favorise la paix sociale,
voilà,
ou ça excite encore plus de rivalité.
Les deux, mon capitaine. Ça s'appelle les duels logiques chez Tarde. Et si vous cherchez une téléologie, une finalité à toute cette histoire, moi, ce que j'aime particulièrement chez Tarde, c'est précisément qu'il peut parfois décliner, si j'ose dire, vers ce qu'il appelle lui-même un nirvana ou un spleen du type schopenhauerien. Mais en réalité, son idée, c'est que c'est la vie esthétique qui est la plus haute fleur, comme il le dit, de la vie sociale. J'aimerais vous lire juste ce passage que je trouve sublime. Et la vie sociale, avec son appareil compliqué de fonctions assujettissantes, de redites monotones, apparaîtra enfin ce qu'elle est, comme la vie organique dont elle est la suite et le complément, à savoir un long passage obscur et tortueux de la diversité élémentaire à la physionomie personnelle, un alambic mystérieux aux spirales sans nombre, où celle-ci se sublime en celle-ci, où lentement s'extrait d'une infinité d'éléments pliés, broyés, dépouillés de leur caractère différentiel, ce principe essentiel si volatile, la singularité profonde et fugitive des personnes, leur manière d'être, de penser, de sentir, qui n'est qu'une fois et qu'un instant. Autrement dit, à cette époque, Tarde a beaucoup réfléchi évidemment aussi sur ce nivellement dont vous parliez. Est-ce qu'on va avoir affaire à un nivellement de plus en plus accru des différences individuelles, ou bien un processus de différenciation, hein ? Mais je crois que là encore, il y a une forme de... Par opposition à ce qui m'a l'air souvent à avoir un goût apocalyptique quand je lis René Girard, mais bon, peut-être que Benoît Chante me contredira, il y a cette idée qu'au fond, la fine fleur de l'individualité, seule la vie sociale peut la produire.
Alors justement, Benoît Chantre, les objets matériels, la vie marchande, le grand marché des objets de consommation où on observe des comportements similaires, des désirs pour les mêmes objets, il dit les deux choses dans l'intervention de Girard qu'on entendait tout à l'heure.
Oui.
Girard dit à la fois c'est du même, mais ça excite quand même la rivalité. Est-ce qu'il accentue la rivalité ou est-ce qu'il souligne la paix sociale que donne cette capacité de fixer le désir sur le désir mimétique sur des objets communs?
Vous avez très très bien défini. Il laisse possible les deux possibilités. Mais ce que j'aime beaucoup dans cet enregistrement que vous nous avez donné à entendre, c'est ce côté joyeusement américain qu'avait Girard de parler sans tabou du business,
des
machines à laver, du business,
oui,
de la pub, etc. Et vous avez tout à fait raison de mettre ça, de nous donner ça à entendre. C'est-à-dire domestiquer l'imitation, disiez-vous tout à l'heure, nous acceptons aujourd'hui, dans ces sociétés baignées de jingles publicitaires, d'acheter en sachant que nous obéissons à des suggestions qui sont faites par la publicité. Nous vivons constamment dans ce phénomène mimétique où nous désirons un café parce que je ne sais quelle star du cinéma nous indique qu'il faut le boire. Nous ne sommes pas dupes de ce jeu. Nous savons que c'est totalement manipulé là aussi, mais c'est un jeu commercial. Et donc nous acceptons ce phénomène de l'imitation, de la suggestion et de l'imitation comme quelque chose d'ambiant. Nous vivons dans cette ambiance. Et là, Girard a une chose qui est dit, une chose assez remarquable pour définir cette situation moderne et contemporaine. Il dit aujourd'hui, beaucoup innovent quand ils croient imiter et beaucoup imitent quand ils croient innover. Cette phrase est très simple, aussi simple que la citation que vous nous avez donnée à entendre. Elle est extrêmement profonde. Assumer le fait de la mimésis, assumer le fait que nous vivons dans des sociétés qui n'arrêtent pas de fonctionner comme cela et d'agiter des désirs acquisitifs, l'accepter comme une vie ambiante en quelque sorte, accepter de se mettre ponctuellement ou ludiquement ou sérieusement sous la dépendance temporaire d'autrui, c'est se donner des chances à un moment donné qu'advienne une réelle innovation. Au contraire, ceux qui prétendent innover, acheter différemment des autres, marquer absolument leur différence par tel ou tel achat ou telle ou telle attitude consumériste, se rendent pas compte qu'ils imitent. Ils imitent à leur insu.
Là aussi, Tard dit la même chose.
Oui, mais ils sont très proches. C'est pour ça que ça consonne magnifiquement. Il y a quelque chose de... Girard insiste un peu sur cette idée rivalitaire, mais qui est aussi présente chez Tard. Et chez Tard, il y a cette idée des différents flux imitatifs, la contagion que Girard a reprise à Tard, l'idée que la mimésis est contagieuse, ça affilie directement Girard à Tard. L'importance de ces deux penseurs, enfin en tout cas de Girard finalement, avec Tard, reconduit et défend la psychologie pour améliorer la méthode sociologique. Il ne faut pas expulser la psychologie, ce mauvais génie, disait Durkheim, de la sociologie. Il faut faire revenir la psychologie dans la sociologie, parce qu'un moteur sans essence ne fonctionne pas.
Same things, a little dough, a lot of love, with a mom and dad to hug. They'd all get the same thing. But down here the world is real, and it don't matter how you feel, 'cause we don't get the same things. We don't get the same thing. You gotta work to stay alive, 40 hours from 9 to 5. We don't get the same things, no.
But all my gangster friends and all my skater friends, we all want the same thing. I'm saying we all want the same things. DJs in the club, Jesus freaks and thugs, we all want the same things, yeah.
Think about the way all the politicians say. They say they want to change things. You know, they say they want to change things. But every year they take some more. And I don't know what it's for. You know, they never change things. But if you want to make it stop, well, first you gotta start making some big old changes. Some different things, and get up out your bed. You better think outside your head, and you won't get the same thing. No.
But all my gangster friends, uh-huh, and all my skater friends, mm-hmm, we all want the same things.
Same thing.
We all want the same things.
We all want
DJs in the club, Jesus freaks and thugs. We all want the same. Whoa.
C'est Kevin Michael, We All Want the Same Thing, une chanson de 2007. Merci beaucoup Anne Devarieux et Benoît Chantre. Les références de vos travaux sont précisées sur notre site. Je vous propose maintenant d'écouter la chronique de Frédéric Worm. Cette semaine, il s'intéresse au printemps. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi les saisons nous importent-elles ? Il y a des dictons fameux, antiques, toujours répétés, qui nous font moins rire que d'habitude. Par exemple, quand, dans un temps un peu inattendu pour la saison, comme on dit, s'il neige vers avril, mai ou juin, s'il y a 20 degrés en plein hiver, s'il fait 30 degrés en janvier, mettons, nous disions toujours, nous avons toujours dit les uns et les autres, il n'y a plus de saison. Mais aujourd'hui, nous ne plaisantons plus tellement avec cela. Ce que nous appelons le changement climatique nous perturbe en profondeur. S'il y a une canicule en janvier et des tempêtes de neige en juin, et si le temps se dérègle, comme on dit fondamentalement, le dicton « il n'y a plus de saison » devient un signe d'une panique cosmique, d'une panique climatique qui nous entraîne en effet dans le sentiment que tout se dérègle et que notre vie elle-même n'aura plus de repères. La première importance donc de la régularité des saisons, de cette alternance massive, cyclique, à peu près 3 mois chacune, entre le printemps, qu'on dit être la première pour différentes raisons, même dans son origine lexicale, le printemps, le temps premier, primitif, printanier, ce qui surgit en premier, la première saison, puis l'été, puis l'automne, puis l'hiver, il y a ce rythme éternel qui nous rassure, cette sorte de régularité qui fait que la première importance de ces saisons, de cette saisonnalité de notre vie dans le monde, c'est cette régularité cosmique. C'est le fait d'appartenir à un ordre du temps qui se répète, qui est cyclique, que la plupart des cultures ont pensé comme justement notre appartenance à un monde ordonné, à une vérité, qu'elle ait été créée par un créateur transcendant ou qu'elle soit le résultat d'une mécanique parfaite. En tout cas, c'est quelque chose comme l'insertion dans une vérité éternelle. Or, le dérèglement des saisons nous panique aussi pour cette raison. Il nous panique pour cette raison très, très fondamentale de l'appartenance à un ordre du monde que les humains étaient jusqu'à dérégler par leur technique. Aujourd'hui, quand nous disons « il n'y a plus de saison », nous ne plaisantons plus avec la chose. Mais ce n'est pas la seule importance de notre attachement aux saisons. Nous savons bien qu'il y a dans notre attachement aux saisons quelque chose de plus. Non seulement la répétition, mais la variation. Nous savons aussi que l'univers nous frappe par sa beauté en général, la beauté qui peut être le signe de la vérité et de l'ordre du monde. Mais il y a aussi cette étrange beauté d'une lumière d'hiver qui n'est pas la même qu'une lumière d'automne et encore moins qu'une lumière de printemps ou la lumière de l'été. Et je parle de la lumière comme parlant de la couleur, des événements. Oui, les saisons, c'est aussi la différence, c'est aussi l'alternance, c'est la variation. Nous y sommes attachés parce que dans chaque culture aussi, il y a les plats de saison, il y a la différence des saisons. Cette différence des saisons qui nous ramène non seulement à la répétition, pas seulement non plus à un changement linéaire, comme nous avons vécu tant d'hivers, tant de printemps, nous pouvons les compter. Non, ça nous ramène à l'alternance vitale, à la beauté de ce qui naît et de ce qui meurt. Oui, même ce qui meurt a sa beauté dans la froid de l'hiver. Oui, même ce qui renaît reviendra toujours avec la couleur du printemps.
Chérie, je m'adresse à toi. Avec toi, chérie, la vie est belle.
Et oui, petit changement, ce n'est pas exactement notre générique de fin, mais c'est la chanson qui l'a inspirée. Il s'agit de Sabali, d'Amadou et Mariam, ce couple malien de chanteurs, un couple à la vie comme à la scène. Et nous voulions leur rendre hommage aujourd'hui. Nous prenons de manière instrumentale la chanson Sabali, qui veut dire patience comme générique. C'est l'original avec la voix de Mariam que vous avez entendue. Amadou est décédé le 4 avril 2025, il y a quelques jours. Nous voulions avoir une pensée pour lui. Et puis pour Mariam, il s'appelle Mariam Doumbia et Amadou Bagayoko. Je vous envoie mes meilleures pensées et beaucoup d'émotions. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger et Marco Page, avec à la technique Clara Galivelle. Elle a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Armance Bourquin, Carla Michel, Anna Fulpin, Axel Dubois et Nassim El Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité.